ensemble dans cette matinée du 17 février, nous allons commencer par mettre en pratique ce que nous venons de chanter. Nous allons lever les yeux vers Jésus. Quand tu étais sur la terre, Seigneur Jésus, avant toute chose, au milieu de tes disciples, tu levais les yeux au ciel. Vers ce Père, vers cette maison d'où tu étais venu. C'était là ton chez-toi. Ici-bas, tu n'étais qu'un étranger, un voyageur. Mais quel souvenir tu as laissé de ton passage ici-bas. Que d'âmes ont été libérées à ton contact. Que de cœurs déchirés ont été pansés et guéris parce que tu les as touchés. Que de larmes ont été séchées par les délivrances que tu opérais lorsque tu allais de lieu en lieu faisant du bien. Délivrant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance. Ô ton passage ici-bas, nous voulons te demander que tu nous prépares à repasser chacun de tes pas sur cette terre dans nos cœurs. Et que nous puissions nous souvenir qu'avant de quitter cette terre, après avoir tout accompli pour notre délivrance, après ta mort sur la croix, après ta résurrection, après tes derniers enseignements, ô Seigneur Jésus, lorsque tu es remonté au ciel, tu as assuré tes disciples que tu intercéderais pour eux. Et nous savons que maintenant, tu te tiens debout à la droite de Dieu et tu ne nous as pas laissés seuls parce qu'avant de quitter les tiens, tu as pu dire « Je suis avec vous tous les jours. » Et si c'est toi qui es avec nous aujourd'hui, nous savons que tu es le même que lorsque tu étais sur la terre. Et que si nous entrons en contact avec toi, si nous sommes sensibles à ta présence réelle, tout ce que tu as fait, tu peux encore l'accomplir aujourd'hui, puisque tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Apprends-nous à rester en contact avec celui qui est invisible, mais qui est tout près de nous. Et c'est tellement vrai que tes disciples pouvaient prêcher que tu n'étais pas loin de chacun des hommes. Même des païens. Et nous voulons croire aussi que tu es ce matin tout proche de ceux qui ne te connaissent pas encore et qui nous sont chers. Tu n'habites pas dans des temples faits de mains, mais tu entoures les hommes parce que tu veux les sauver. Et si tu nous as fait la grâce de croire, si nous t'appartenons, nous voulons te bénir de ce que tu n'es plus seulement à côté de nous, mais de ce que tu es en nous. Et nous désirons pouvoir en témoigner ce matin dans ce culte et dans la fraction du pain. Que ta grâce soit au milieu de nous et que nous puissions comprendre encore les merveilles de ton âme. Les merveilles du cœur de Dieu qui était dans ton cœur et que tu n'as pas gardé pour toi, mais que tu as voulu répandre sur nous, de telle manière que le peuple pouvait dire « Il fait tout à merveille. » Ô Seigneur, toi dont le nom est merveilleux, que nous puissions le réaliser ce matin et que tu relèves tous les cœurs découragés, que tu dissipes toute dépression de nos vies et que nous soyons remplis jusqu'à déborder de ton amour et que cet amour remonte comme l'eau jusqu'à ta source. Amen. Eh bien, mes amis, nous allons relire une dernière fois ce texte qui servait de toile de fond à nos messages sur le thème « La vie dans l'Église ». Et en ce 17 février 1985, nous avons les deux dernières persévérances qui doivent nous occuper. Mais je lis depuis le verset 42 au sujet des premiers croyants qui se réunissaient autour du Seigneur. Ils persévéraient dans la doctrine, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle ou la communion des apôtres, cette communion qu'ils avaient avec le Seigneur lui-même, comme nous l'avons lu dans la première épître de Jean. Et non seulement avec le Seigneur, mais avec le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous pouvons appeler aujourd'hui notre Père. C'est beau, hein? Notre Père. Ils étaient en communion avec le Dieu des apôtres, qui est notre Dieu à nous. Ce qui veut dire que tout ce que le Père a été pour Jésus, il veut l'être pour nous. Et tout ce que Dieu a fait pour Jésus, nous pouvons croire qu'il veut le faire pour nous. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous croyons cela en ce matin du 17 février? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est notre Père. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Et ça veut dire que tout ce que le Père a été pour son Fils bien-aimé, il veut l'être pour nous. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait pour son Fils bien-aimé, il veut le faire pour nous. Parce que c'est Jésus lui-même qui a dit, le Père lui-même vous aime. Et il va loin. Il dit, tu les as aimés, parlant des siens, comme tu m'as aimé. Mais il faut que ça devienne vrai, ça. Moi, je trouve que c'est bouleversant. Malgré toute la misère que je vois en moi, malgré toutes mes défaillances, j'apprends que je suis aimé du Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il aimait son propre Fils. Ça m'est pas difficile de penser que le Père aimait son Fils. Mais je suis maintenant un Fils adoptif. Et le Seigneur m'aime comme si j'étais son propre Fils. Il ne fait pas de différence. Notre Père des cieux n'est pas un paraître pour ses enfants d'adoption. Il est leur Père. Et la mesure de l'amour que le Père a pour moi, c'est la mesure dans laquelle il aimait son propre Fils. C'est ça qui est vrai. Toutes les autres pensées qui vous viennent, ce sont les pensées de l'ennemi. Arrière de moi, Satan. Ces pensées sont les pensées de l'ennemi. Je veux croire ce que le Seigneur m'a dit, parce que lui n'a jamais menti. Il était la vérité. Et ce Dieu Tout-Puissant, on le chante, un Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, oui, mais est-ce qu'on le croit que ce Dieu Tout-Puissant qui exauçait son Fils, c'est maintenant notre Dieu. Et que ce Dieu qui a agi avec une telle puissance pour son Fils veut aussi agir pour nous. Mais à une condition, c'est que nous soyons disponibles comme le Fils était disponible dans les mains de son Père. Le Père faisait avec son Fils tout ce qu'il voulait. La raison d'être sur la terre de Jésus, c'était réellement d'accomplir la volonté du Père. Eh bien, si nous aussi nous avons compris cette grande leçon, ma raison de vivre ici-bas, c'est de faire la volonté du Père. Alors, Père, fais avec moi ce que tu veux. Moi, je suis incapable de faire quoi que ce soit, Mais puisque tu me demandes, eh bien, je me donne à toi et maintenant dispose. Hein, on dit, toi qui dispose de toutes choses, mais est-ce qu'il dispose de nous? Oh, on aime bien toi qui dispose de toutes choses pour nous, hein, mais toi qui dispose de moi. Toi qui dispose de moi. Laissez-le disposer de vous. Vous aurez beaucoup moins de soucis. Parce que vous avez vu comme le Seigneur est bon, comme il est tendre, il sait nous réveiller en nous tapant doucement sur l'épaule, c'est un coup de poing, il va doucement, n'est-ce pas? Et c'est pas seulement à Pierre qu'il a fait ça, mais à ce pauvre Élie qui dormait sous un genêt, dans le désert, il était tout seul, et il avait 40 jours de marche à faire, et puis il s'est couché en disant, Seigneur, prends mon âme, puis tout à coup une main qui le frappe sur l'épaule. Lève-toi, Élie, lève-toi, le chemin est long pour toi. Puis trouve le dîner préparé pour lui. Puis on lui dit, mange, bois, et puis ça se renouvelle une seconde fois. Voilà les soins de Dieu. Nous y croyons à ces soins de Dieu. Il est tellement tendre. Dieu, c'est la tendresse avec un grand T. Hein. Il est la tendresse. Et nous avons besoin de tendresse. Vous avez besoin de vous sentir aimé de Dieu. Croyez-le, vous êtes aimé de Dieu, et vous êtes aimé de Dieu tel que vous êtes. Souvenez-vous de Pierre. Hein? Pierre, on aurait pu le bousculer quand même, après qu'il ait renié le Seigneur. Eh bien non, le Seigneur l'a aimé. Et c'est tellement beau. Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu. C'est tout ce qu'il vous demande. Oh Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Il persévérait dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle ou dans la communion des apôtres, puis maintenant dans la fraction du pain et dans les prières. Eh bien, puisque maintenant nous y sommes, on va laisser ça dans l'ordre et commencer simplement par cette fraction du pain. Et pour savoir ce que cela veut dire, cette fraction du pain, je vous citerai quelques versets qui sont quand même bien importants. C'est tout cela, ça se voit dans la vie de Jésus. Et quand vous avez indiqué ce cantique, lève les yeux vers le ciel, hein, eh bien, ça m'avait pensé vraiment à ce dont les disciples pouvaient se souvenir, puisqu'on est appelé à nous souvenir de lui, de la manière dont Jésus agissait. Quand venait le moment du repas, souvenez-vous simplement des multiplications des pains. Et je vous cite, parce qu'on a peu de temps, simplement les textes, vous les retrouverez, vous chercherez dans vos Bibles, Matthieu 14, la foule est là, elle a écouté l'enseignement de Jésus, cet enseignement que les apôtres ensuite retransmettrait à l'Église primitive. Et dans l'enseignement de Jésus, eh bien, nous voyons que Jésus, après leur avoir parlé, après avoir nourri leurs âmes, montrant bien que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur, il se souvient qu'ils ont un corps. Hein. Et puis, alors que les disciples, eux, ils ont leur petite provision pour eux, Jésus dit, mais toute cette foule, elle n'a rien à manger, ils n'ont pas pensé rester si longtemps, ils pensaient venir à une réunion, je ne sais pas, si c'était une réunion, comme on a dit aux États-Unis, 20 minutes, et puis après, ils s'en iraient. Non, mais voilà que ça durait depuis 2 jours ou 3 jours, et puis ils avaient oublié de manger, tellement ils étaient captivés par la parole du Seigneur. Alors le Seigneur, qui a les pieds sur la terre, tout en étant le Seigneur du ciel, eh bien, il dit, mais il sait très bien les oiseaux du ciel, on leur donne à manger, et ces hommes qui viennent de m'écouter, je ne veux pas les faire repartir sans avoir mangé, ils tomberont en chemin. Parce que le Seigneur sait bien, c'est lui qui nous a créés, que notre corps physique a besoin de renouvellement par la nourriture. Et quand il a fait partir Élie au torrent du Kérit, là où il n'y a pas de magasin, où il n'y a pas de boulanger, où il n'y a pas de boucher, rien, eh bien Dieu a commandé à des corbeaux d'aller lui apporter la nourriture. parce qu'il est aussi le maître des corbeaux, le seigneur des corbeaux. Est-ce qu'il est notre seigneur? Il est le seigneur des oiseaux du ciel. Il est le seigneur qui sait que nous avons besoin de la nourriture. Alors, Jésus dit, mais je ne vais pas renvoyer ces foules. Les disciples disent, renvoie les foules. Nous, on a faim, on veut prendre notre petit pique-nique. On ne peut pas manger devant tout le monde. Alors, on renvoie les foules, puis après nous mangerons. Jésus dit, non, vous donnez-leur à manger. Et puis, on apporte le pique-nique. Oui, on va avoir faim aujourd'hui, alors s'il donne... Puis qu'est-ce qu'il va donner? Voilà, Jésus, il lève les yeux vers le ciel. Vous trouverez toujours cette expression. Avant toute chose, il levait les yeux vers le ciel. Et il rendait grâce. Et puis ensuite, il prenait le pain et il le rompait. La fraction du pain. Il rompait le pain. Et voyez-vous, ça, ses disciples, ils se souviendront toujours de ces gestes. Un Jésus qui a quelques pains et quelques petits poissons, la première chose qu'il fait, il lève les yeux au ciel vers son Père. Il rend grâce, puis il rompt le pain et il le distribue. Il le donne à ses disciples pour qu'il le distribue aux foules et qui sont rassemblées par rangées de 50 ou de 100. Et 5000 personnes sont nourries. Et il y a même des restes. Hein. Et les restes, il faut les ramasser. Alors, vous pouvez relire les multiplications des pains. Vous verrez toujours l'attitude de Jésus, que ce soit dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean 6, où il y a une multiplication des pains. Ça, c'est un petit garçon, c'est pas même les disciples. C'est un petit garçon qui avait son pique-nique. Sa maman lui avait donné un pique-nique puisqu'il avait dit, moi, je voudrais aller écouter Jésus. Alors, elle lui a donné 5 pains d'orge et quelques petits poissons. Et puis, l'enfant, il ne les a pas mangés. Et quand l'enfant apprend que, il y a une difficulté, que Jésus aurait besoin de pain, eh bien, il ne pense pas à lui, il va tout de suite le dire à André, puis André, questionné, dit, eh bien oui, il y a un petit garçon qui a 5 pains, mais qu'est-ce que c'est que 5 pains? Et on amène le petit pique-nique du petit garçon, et le petit garçon a donné le pique-nique. Et c'est par un petit garçon que les foules ont été nourries. Voyez, Dieu emploie Samuel, il emploie un jeune garçon pour son service, et c'est quelque chose de merveilleux. Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge. Verset 9 du chapitre 6, et 2 poissons. Mais qu'est-ce cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Et il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, elles étaient environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Dans les autres versions, il est parlé qu'il lève les yeux vers le ciel, rend grâce. Et il distribue. Alors voilà où nous trouvons la fraction du pain. Et ensuite, alors, quand il institue la Sainte Cène ou l'Eucharistie, selon le mot grec, qui est au fond la suprême action de grâce, à la fin du repas pascal, eh bien, Jésus a les mêmes gestes. Il dit au chapitre 22 de Luc que l'heure est venue, verset 14, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et puis je passe au verset 19, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Vous retrouverez toujours ce mot de rompre. Le pain, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, le leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et alors, une fois ressuscité, donc, ces gestes de Jésus, ils étaient dans la mémoire des disciples. Cette manière dont il avait de rompre le pain après avoir rendu grâce, ça s'était fixé percer dans leur sensibilité. C'était un geste qui était inimitable en quelque sorte. Et cela, ils s'en souvenaient. Alors les deux disciples d'Emmaüs qui ont entendu le Seigneur quand il a marché avec eux sur le chemin alors qu'ils s'entretenaient ensemble puis qu'ils avaient un visage tout triste. Vous savez que le Seigneur est au milieu de nous, puis qu'il regarde vos visages, puis qu'il voit si vous êtes triste. Alors il vous dit, mais pourquoi avez-vous un visage si triste? Pourquoi êtes-vous si triste? Puis au fond, quelles sont vos préoccupations? De quoi discutez-vous en chemin? Parce que peut-être vous ne discutez pas avec quelqu'un, mais vous discutez en vous-même. Mais qu'est-ce qu'il y a comme discussion en vous? Qu'est-ce que c'est ce conflit? Toutes ces pensées qui vous assaillent pendant même que vous écoutez un message. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Alors, là, vous pouvez, le Seigneur, vous pouvez le laisser vous questionner. Ne devenez pas des questionneux pour les autres, mais laissez-vous questionner. Alors, les disciples racontent ce qui s'est passé à Jérusalem, parce que Jésus n'a l'air de rien savoir. Il dit pas, oh, je sais aussi, hein, je sais bien ce qui s'est passé. Il dit, mais quand on lui dit, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que tu habites seul à Jérusalem pour ne pas savoir ces choses? Jésus fait pas le genre d'homme qui sait tout. Il dit quoi? Moi j'aime beaucoup ce quoi. Qu'est-ce qui s'est passé alors quoi? Bien Jésus de Nazareth, puis il commence de dire un tas de choses sur ce que était Jésus, puis nous espérions que c'était lui qui devait sauver Israël. Au fond, c'est des déçus. Des croyants déçus. Est-ce qu'il y en a parmi vous des croyants déçus? Ils avaient donné leur cœur au Seigneur, ils espéraient que tout irait bien, ils avaient de grands projets, ils voulaient servir le Seigneur, ils pensaient qu'ils seraient peut-être ministres dans son royaume, puis voilà qu'il était mort. Puis bien sûr, il y avait des femmes, et c'est des femmes qui disent ça. S'il serait ressuscité, on aurait trouvé le tombeau. Mais on ne peut pas se fier sur des racontages de femmes. Alors, puis Jésus les écoute, il dit aux gens, lents de cœur à croire. Vous voyez que c'est vrai, hein? La petite robe, la petite rose, elle a cru tout de suite que c'était Pierre. Mais nous, les disciples, qui en savons peut-être plus que les enfants, nous sommes des gens lents de cœur à croire. Les enfants, ils croient. Mais nous, nous avons de la peine à croire. Aux gens, lents de cœur à croire. Toutes les choses qui sont écrites dans la loi et les prophètes. Et puis il leur raconte, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses? Puis il leur fait une description fantastique de tout ce qui était écrit dans la loi, les psaumes et les prophètes. C'est la plus grande étude biblique de tous les temps qui malheureusement n'était pas enregistrée. Ce serait bien autrement intéressant, c'est tout ce que je peux vous dire. Cet exposé de Jésus sur le chemin d'Emmaüs, ça a dû être quelque chose de merveilleux. Il leur a expliqué dans toutes les Écritures, dans la loi, donc les cinq livres de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes, tout ce qui était écrit de lui. Alors, les disciples sont quand même intéressés, ils ne parlent plus, ils écoutent. Et puis, quand ils arrivent à Emmaüs, le Seigneur, ben, maintenant, il leur a dit ce qu'il avait à dire, il s'en va plus loin. Alors, ils le retiennent. Oh, il a réussi à captiver leur attention. Ils ne voudraient pas que le Seigneur les quitte. Ils ne savent pas que c'est le Seigneur encore. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu pendant qu'il leur exposait les Écritures. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais quand même, celui qui leur a expliqué les Écritures, ils voudraient le garder avec eux. Alors, il dit, Seigneur, reste avec nous, le soir décline. Le jour est sur son déclin, le soir s'est approché, et il resta pour demeurer avec eux. Et c'est pendant, verset 30 du chapitre 24, pendant qu'ils étaient à table, il prit le pain. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Après avoir rendu grâce, il le rompit. Là, c'est le geste habituel de qui? Il n'y en a qu'un qui fait ça d'une façon inimitable. Ils l'ont reconnu, hein, à la fraction du pain, à cette manière de Jésus qui prie, qui rend grâce, puis qui simplement rend le pain. Ils le reconnaissent. Leurs yeux se sont ouverts à quel moment? à la fraction du pain. Voilà pourquoi nous insistons tant sur le mémorial du Seigneur. La fraction du pain, c'est pas simplement rompre du pain, puis manger un morceau de pain ou boire une gorgée de vin, mais c'est là que se passe réellement quelque chose. Nous n'avons pas à donner des définitions sur ce qui se passe, mais nous disons et nous affirmons de tout notre cœur qu'il se passe quelque chose à la table du Seigneur, quand on ne s'approche pas de cette table comme d'une simple table pour manger le repas du Seigneur. C'est pas ça, manger le repas du Seigneur. C'est se souvenir de lui. C'est être absolument absorbé par la vision du Seigneur. Par ce geste, il rompit le pain. Alors, il les dit, ils le reconnurent. Leurs yeux s'ouvrirent quand il le leur donna. Et ils le reconnurent. Mais à ce moment-là, il disparaît à leurs yeux. Mais ensuite, quand eux s'en vont, ils disent d'abord, mais notre cœur ne brûlait-il pas au sujet au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Il y a donc eu un moment d'explication des Écritures et leur cœur brûlait. Et alors dans la fraction du pain, ces cœurs qui brûlaient d'avoir entendu la parole, ils permettent à leurs yeux de s'ouvrir. Quand le cœur brûle, les yeux s'ouvrent et on voit quelque chose. Mais si le cœur ne brûle pas, eh bien, les yeux ne s'ouvrent pas. Mais il faut que le cœur brûle. Et qu'est-ce qui peut faire brûler le cœur? La parole. Comprenez-vous? C'est pour ça que dans un vrai culte, il y a toujours la parole. Et puis il y a la fraction du pain aussi. Il y a les deux. Un culte complet où il n'y aurait que la parole, c'est un culte complet. Et c'est ce que nous disons quelquefois, parce que les catholiques nous reprochent ça, n'est-ce pas? Vous prenez, vous, seulement occasionnellement, le repas du Seigneur. Non, nous y tenons, et peut-être encore plus que nos frères catholiques. Nous y tenons. De tout notre cœur, c'est quelque chose de précieux. Nous ne disons pas, oh, il ne faut pas la prendre trop souvent, la Sainte Cène, parce que on risque de s'habituer. Vous vous habituez? Oui, puis alors on mange, puis on boit, on prend un morceau de pain, puis on, bon, c'est ça la communion. On a son litre de vin avec soi, et puis un morceau de pain, puis alors on est dans la campagne, parce que ça nous ennuie le dimanche d'aller dans une salle. Alors on fera la fraction du pain là, dans la montagne, et puis comme ça. Mais c'est pas ça! La fraction du pain, elle se fait quand même dans la communauté, dans l'ensemble des croyants. Et on y participe, mais on n'y participe pas simplement en disant j'ai mangé un morceau de pain et puis j'ai bu une gorgée de vin. Non, on a vu le Seigneur, nos yeux sont ouverts. Alors on a quelque chose à lui dire. Ils le reconnurent dans la fraction du pain. Et quand ils le disent, quand ils reviennent à Jérusalem, verset 35, il dit, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu, à quel moment? Au moment où il rompit le pain. Donc, vous voyez, c'est là qu'on le reconnaît. Il y a une présence réelle du Seigneur dans ce mémorial. Nous n'avons pas besoin de l'expliquer, mais nous adorons et voyons un peu plus loin encore ce qu'il est dit. Alors, nous arrivons donc à notre texte. Il persévérait, j'ai déjà dit ce qu'était la persévérance, je pense que vous vous en souvenez, de sorte que je ne vais pas me répéter. Et j'arrive au chapitre des Actes, au chapitre 20 des Actes, où on voit Paul à Troas, au verset 7 du 20 des Actes, le premier jour de la semaine. Donc, pourquoi est-ce que l'on rompt le pain principalement le premier jour de la semaine? C'est parce qu'on voit que ça se faisait ainsi. Mais dans l'Église primitive, quand est-ce que c'est qu'on faisait le repas du Seigneur? Tous les jours. Tous les jours. Et je dis souvent, quand on comprend bien le repas du Seigneur, si on le faisait tous les jours, nos disputes entre frères ne devraient pas durer plus d'un jour. Le soleil ne se coucherait pas sur notre colère. On se mettrait en règle. C'est beau, ça. Parce que la fraction du pain m'oblige à être en règle avec mes frères. Alors, ça ne doit pas durer plus d'un jour. Ou ça ne devrait pas durer plus d'un jour. Parce que je veux me souvenir de lui. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors, dans l'Église primitive, c'était tous les jours. De sorte que nous ne devons pas rire des catholiques qui, bien sûr, s'étaient déformés dans leur Eucharistie. Mais quand même, là, s'ils le font tous les jours, c'est pas là qu'ils sont en erreur. Comprenez-vous? L'erreur n'est pas dans le fait de communier tous les jours. C'est pas du tout ça. Parce que dans l'Église primitive, on le faisait tous les jours. Alors, gardez votre équilibre et soyez honnête. Toujours honnête. Mais enfin, parce qu'il y avait des abus, eh bien, on voit après que c'était principalement le premier jour de la semaine, verset 7, nous étions réunis pour rompre le pain. Et on a pensé qu'au début même, ils n'employaient pas toujours le vin, il y avait seulement le pain. Mais ça, je ne m'en vais pas élaborer là-dessus. Mais Saint Jérôme le prétend aussi. C'est pour ça qu'on disait la fraction du pain, rompre le pain, mais rompre le pain, ben, si on le met dans le contexte de la Sainte Cène, il y avait aussi le vin. Et puis alors, Paul nous le dit plus loin. Paul, qui devait, je reviens au verset 7, partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit, alors qu'on ne lui avait donné que 20 minutes. C'est ça? Et il y a un ami qui m'a dit hier, c'était tellement juste ce que vous avez dit, qu'il connaissait un prédicateur auquel on avait donné si peu de temps, parce qu'il y avait les numéros spéciaux, il y avait toutes sortes de choses, et puis après, ben, vous apporterez votre message. Quand il a vu qu'il était tellement limité, c'était un missionnaire de l'étranger, il s'est levé, puis il leur a dit, écoutez, c'est inutile, j'ai trop peu de temps, je vous donne mon adresse. J'ai trouvé ça très bon, hein. On m'a dit ça hier soir, hein. C'est M. Van der Waal. C'est ça, alors je vous donne mon adresse. Bien, revenons à notre texte. Hein. Lui, il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Alors on dit, ben, c'était une grave erreur de Paul, hein, parce que qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre, haute. C'était pas la lumière de la prison de Pierre, hein, ça, c'était des lampes, ça chauffait. Ce n'est pas le cœur qui était tellement réchauffé, mais c'était les lampes qui chauffaient l'extérieur. Et alors, quand il fait trop chaud dans une salle, qu'est-ce qui arrive? Ce n'est pas de miracle. Il y en a qui s'endorment. Enfin, faites aussi le contraire. Vous savez, j'ai dit que celui qui balaye la salle ou qui s'occupe, qui est le concierge de la salle, il fait les choses pour le Seigneur. Alors, il ne faut pas qu'il chauffe trop non plus. Il ne faut pas que les gens aient froid, mais il ne faut pas qu'il chauffe trop parce que sans ça. Et puis, je dirais aussi, quand vous allez à une réunion, ne mangez pas trop. Parce que quand la digestion commence à se faire, et bien voilà, vous commencez à taper des clous. Alors, faites attention, même si le prédicateur est très vivant. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai connu ça quand j'étais petit. Je voulais pas que mon père me prenait depuis ma tendre enfance aux réunions, puis des fois c'était long, les réunions, puis j'y comprenais rien. Alors, on allait me demander, mais qu'est-ce qu'il a dit, le frère, etc. Il fallait que je me souvienne au moins d'une phrase. Alors, de temps en temps, je me pinçais les cuisses pour me réveiller, parce que j'avais envie de dormir. On connaît ça, on était de chair, nous aussi. Hein? Puis je priais pour que je ne m'endorme pas, Seigneur. Puis je ne comprenais rien de ce qu'il disait. Alors, c'était tellement profond. Un jeune homme, ben oui, vous voyez, un jeune homme, il s'appelait Eutychus, et qui était assis sur le bord de la fenêtre. Il y avait tellement de monde qu'il y avait des gens debout, puis le jeune homme, il s'est dit, pourquoi est-ce que je ne m'asseyerais pas sur le bord de la fenêtre? Et il n'a pas pensé qu'il allait s'endormir. Mais voilà qu'il s'est endormi profondément, un peu comme Adam quand il a eu son opération. Vous savez l'opération d'Adam, hein? Oui. Le Seigneur l'a endormi. C'est pour ça que je dis que c'est lui qui a inventé les narcoses. Les anesthésies, c'est le Seigneur qui les a inventées. C'est le premier qui a fait une anesthésie. Entre parenthèses. Or, le jeune homme nommé Eutychus, qui s'était assis au bord d'une fenêtre, s'endormit profondément. Pendant le discours de Paul, entraîné par le sommeil, Et il tomba du troisième étage en bas, il fut relevé mort.
C'est pas drôle. Alors qu'est-ce qu'on a dû dire? Quand même, hein, Paul, il aurait pu s'arrêter.
Paul descend, il se penche sur lui, il le prend dans ses bras, c'est tellement beau, en disant, ne vous troublez pas, son âme est en vie. Quand il fut remonté,
qu'est-ce qu'il a dit? On en a assez. Non, c'est justement là. Quand il fut remonté, il rompit le pain. Voilà. Il rompit le pain et mangea. C'est la fraction du pain.
Et il parla encore longtemps jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Et le jeune homme fut ramené vivant. Et ce fut un sujet de grande consolation. Je vous dis ça simplement pour vous trouveriez les morts rompent le pain. Et une dernière fois où nous voyons Paul rompre le pain, c'est où?
Dans la nuit, sur un bateau qui va sombrer. C'est merveilleux.
Chapitre 27 des Actes. Chapitre 27 des Actes. Alors que Paul est prisonnier et que le navire va sombrer, il est dit au verset 33, « Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. » Là, il est au milieu de païens, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc de prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. » Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Si on lisait mieux les Écritures, on n'aurait pas peur de se baigner après avoir mangé. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient plonger. Il leur dit que vous mangez. Il ne leur a pas dit, vous attendrez 2 heures avant d'aller à la mer. C'était nos grand-mères qui nous disaient ça. Elles avaient peut-être raison. Mais enfin, on sait que ce n'est pas ça qui peut nous faire mourir. Alors verset 34, « Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et qu'est-ce qu'il a fait? Les gestes du Seigneur. Après avoir rendu grâce, à Dieu devant tous, il le rompit, la fraction du pain. Il le rompit et il se mit à manger. Il a donné l'exemple. Et maintenant, le fameux passage, il y aurait aussi le chapitre 10 des Corinthiens sur la table du Seigneur, mais dans le chapitre 11, vous avez la révélation que Paul a reçue du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur, verset 23 du chapitre 11, ce que je vous ai enseigné, parce que il dit au verset 20, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, comme on mange un autre repas, parce que là, une agape, c'est une agape. Mais la scène du Seigneur, le repas du Seigneur, c'est différent. Car j'ai reçu du Seigneur, verset 23, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et vous retrouvez ces mêmes expressions. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que Paul était là quand ça s'est passé? Dans la nuit où Jésus fut livré? Non, il n'était pas là. Mais il a reçu cette révélation de sorte que quand Paul raconte ce récit, on pourrait croire qu'il était là. Qu'il a assisté à cela. C'est encore plus précis dans ce que Paul nous dit que ce qui est dit dans les évangiles où Matthieu, par exemple, était parmi les participants à la première scène. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, quand ?» Toutes les fois. Donc, on ne s'habitue pas. C'est ça la persévérance. La persévérance, c'est ne pas s'habituer seulement, mais c'est une continuation qui nous renouvelle. C'est un renouvellement, pas le renouvellement du sacrifice, mais un renouvellement intérieur qui se produit en nous. Chaque fois que nous prenons le pain et que nous buvons à la coupe, eh bien, nous sommes renouvelés spirituellement par la pensée que, au fond, pour mon salut, il a fallu que le Christ meure pour moi. Et chaque fois que je prends la scène, je me dis, comme il m'a aimé, je comprends mieux le prix de la grâce. Je ne m'habitue pas à penser que si moi je vis, un autre est mort pour moi. Ça a un prolongement dans mon existence. Il est mort pour moi. Alors ça me renouvelle dans la reconnaissance. Et plus on avance, plus, comme nous le disions, on se voit noir, plus on s'étonne. Mais comment a-t-il pu m'aimer? Et comme on ne comprend pas, on arrive vraiment à l'adoration. Quand on adore, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est quelque chose, on se prosterne, on n'a pour ainsi dire plus de mort, ou tout ce que l'on peut dire, c'est que nous l'aimons lui parce qu'il nous a aimés. Le premier. L'adoration, voyez-vous, c'est un cœur, c'est pas des phrases qu'on essaye d'élaborer dans notre crâne, c'est un cœur qui est tellement rempli en voyant l'amour du Seigneur que la coupe déborde. L'adoration, c'est un débordement. Et alors, vous ne vous occupez pas des autres, mais vous apportez au Seigneur, vous dites pas, est-ce qu'il pensera que j'ai bien prié? C'est tout du foin, ça, du chaume, ça brûle, c'est pas ça. Vous êtes en présence du Seigneur. Et si toute l'assemblée est en prière silencieuse, eh bien, toutes ces prières silencieuses apportent dans votre cœur des sentiments de louange, et puis c'est toute l'assemblée qui prie par votre bouche. De sorte que c'est tellement vrai, ça, quand c'est l'esprit qui est vraiment à l'œuvre dans une assemblée, que bien souvent, on est là. Dans le silence, et on voudrait peut-être dire quelques mots, et puis tout à coup c'est un autre qui dit exactement les mêmes mots. Hein. Ou bien c'est un cantique qu'on entend chanter dans notre cœur, pas notre cantique préféré, mais un cantique qui correspond à ce qui était dit avant, et puis tout à coup on se dit, oh, je devrais indiquer ce cantique, puis on a encore une petite retenue, puis voilà que c'est un autre frère qui indique exactement le même cantique. Alors on voit que c'est le même esprit. Et cela, ça nous encourage. Hein. Ou bien, c'est peut-être quelqu'un qui se lève, on avait à cœur une lecture qui correspondait, puis on ne l'a pas fait, on a un peu attendu, puis voilà qu'un autre frère se lève pour lire ce texte. Alors, ça nous réjouit parce qu'on sent, on est ensemble, il y a une communion fraternelle. Il y a les mêmes sentiments dans les cœurs des uns et des autres. Voyez-vous, le culte dans la liberté de l'esprit, c'est une merveille. Puis ça se passe toujours un peu différemment, il y a toujours quelque chose de nouveau. Mais si c'est la chair dans nos milieux qui se manifeste, là où on dit qu'il y a la liberté de l'esprit, c'est pas la liberté de la chair, où n'importe qui peut dire n'importe quoi. Eh bien alors ça c'est une catastrophe. Alors j'aime beaucoup mieux un culte très structuré où il y a la liturgie parce qu'au moins ça se tient. Et puis des cantiques qui sont déjà numérotés mais parce qu'on y a pensé avant et ça correspond aux lectures. Alors oui, un culte liturgique là où on n'a pas la liberté de l'esprit, ça vaut beaucoup mieux. Mais si c'est réellement la liberté de l'esprit, eh bien, il y a une cohésion, il y a une unité, et on reconnaît qu'au travers du culte se développe une pensée, la personne du Seigneur comme l'agneau ou la personne du Père et qui a des enfants qui l'aiment. Il y a des sujets différents qui sont donnés. Une fois c'est un thème, une autre fois c'est un autre thème, mais tout converge vers cette adoration où on dit grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Et alors on est préparé pour manger ce pain. J'aime beaucoup ce cantique. Hein. Quand nous mangeons ce pain, nos yeux vont se chercher là dans la célestité. Oui, quand nous mangeons ce pain, quand nous buvons à la coupe,
à cette coupe du salut. Nous sommes en communion réelle avec le Seigneur. Il occupe vraiment nos pensées. Il est en nous. Et en prenant le pain, eh bien, nous confessons aussi réellement que le Seigneur, que le pain entre en nous. Nous confessons que le Seigneur nous habite, qu'il est en nous. Aussi réellement que le vin nous pénètre, eh bien, nous confessons que nous vivons vraiment de la vie du Seigneur. Car le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Et le Seigneur nous a donné ces éléments, le pain et le vin, pour que nous puissions être dans une communion réelle avec lui. Ce n'est pas une communion symbolique, hein. C'est une communion réelle, parce que Jésus ne s'est pas donné symboliquement, il s'est donné réellement sur la croix. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand nous parlons de symbole, parce que ça, ça détruit quelque chose. Il ne faut pas vouloir expliquer, dire ce que c'est. Jésus a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, ceci est mon sang. Bien sûr qu'il n'y a rien de magique, il n'y a rien de, qui se transforme, il n'y a pas de pouvoir du prêtre, cela nous n'y croyons pas, mais nous croyons pourtant qu'il se passe par le Saint-Esprit quelque chose à la table du Seigneur quand nous nous approchons dans le jugement de nous-mêmes et dans la communion de nos frères. Eh bien, nous savons que nous maintenons cette communion et que là, à la table du Seigneur, se manifeste où devrait se manifester l'unité du corps du Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul pain, comme le dit chapitre 10 des Corinthiens, et nous buvons à la coupe en pensant au Seigneur Jésus, celui qui est le centre du culte. Parce que vous voyez ce qu'il est dit, verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, on se replace devant la mort du Seigneur. Et quand on annonce la mort du Seigneur, c'est pour ça que je dis que le culte, pour moi, c'est la plus grande réunion d'évangélisation. La mort de Jésus y est annoncée. Et c'est pourquoi celui qui mangera du pain, boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable. Il n'est pas dit à l'égard du pain ou à l'égard du vin, mais à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Il y a donc réelle communion au corps et au sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et pourquoi est-ce que nous disons qu'il se passe quelque chose? C'est parce qu'il se passe quelque chose en jugement. Nous avons vu que pour Samuel, il est dit que Dieu ne laissa tomber aucune des paroles qu'il avait dites. Tout s'est accompli. Bien là aussi, à la communion, tout s'accomplit. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et un grand nombre de malades, et que beaucoup sont morts. Ça peut aller jusqu'au retranchement du corps. Ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus, mais ils ne peuvent plus être des témoins, et le Seigneur les reprend. Mais si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés avec le monde. Alors, chaque fois donc que nous nous approchons, c'est pas un rite, c'est que nous sommes remis en présence de toute l'œuvre du Seigneur, et puis je me dis, mais est-ce que je peux m'approcher? C'est le Seigneur qui m'invite. Oui, mais il y a peut-être des choses dans ma vie, le Seigneur me dit, mais moi, je ne suis pas un sauveur pour rien, je ne suis pas mort pour rien, je suis mort pour tes péchés. Alors, confessons nos fautes. Nous devrions venir à la tête du Seigneur en ayant confessé nos péchés, en nous étant mis en règle avec le Seigneur. Il y a une préparation au culte, mais cette préparation, elle ne devrait pas avoir lieu dans la salle même, mais avant. Et puis, si on a quelque chose contre quelqu'un, on devrait se mettre en règle aussi avec cette personne avant pour pouvoir venir au culte dans un cantique d'allégresse qui chante déjà avant qu'on soit rendu à la maison du Seigneur. Car s'il s'exerce un jugement sur ceux qui pensent « Ouf, je peux bien faire ça, je peux bien me communier », et puis qu'on n'ait pas été exercé devant le Seigneur, eh bien, il y a un jugement qui peut se produire. Mais si je me suis jugé moi-même et que je m'approche, je crois aussi qu'il y a une bénédiction. Vous ne pouvez pas faire un geste pour le Seigneur sans que vous soyez béni. Si vous dites, bien, le Seigneur a tout accompli, il peut me purifier, parce qu'on l'a vu hier, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Parce que si vous attendiez d'être digne pour vous avancer, vous ne vous avanceriez jamais. Mais, comme on le dit souvent, c'est le Seigneur qui est digne. Et voilà, alors, on persévère dans la fraction du pain. Et qu'est-ce qu'on annonce? En même temps, on annonce la mort du Seigneur. On se souvient de ses souffrances. Et puis, on attend qu'il vienne. On fait cela jusqu'à qu'il vienne. Alors, ce qui se passe là, quand je participe au repas du Seigneur, dans la communion de mes frères, en ayant le pardon dans mon cœur à l'égard de tous mes frères, ou si je sais qu'un frère a quelque chose contre moi, j'essaye de le trouver, je ne peux pas le contraindre, autant qu'il en dépend de vous, vivez en paix. S'il refuse, ça c'est une autre affaire, mais ça ne me privera pas de m'avancer. J'ai fait le geste, j'ai voulu me réconcilier avec lui. S'il ne le veut pas, eh bien, moi, je sais que j'ai fait ce que je devais faire avec le Seigneur, j'ai demandé pardon, même si j'avais... Si je croyais avoir raison, je me suis humilié, alors je m'approche de la table du Seigneur. Et qu'est-ce que je pense? Il est mort. Et il est mort pour des gens qui l'ont crucifié. Mais qu'est-ce qu'il avait dans son cœur quand il mourait? Père, pardonne-leur. Alors, je communie avec l'esprit de pardon même pour celui qui n'a pas voulu se réconcilier avec moi. Je continue de prier et d'avoir l'esprit de pardon. Parce que je me souviens de sa mort, il est mort pour ceux qui étaient encore ses ennemis. Dieu constate l'amour qu'il a eu pour nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que les pécheurs soient réconciliés avec lui. Il est mort d'abord pour qu'il y ait réconciliation. Alors n'oublions jamais cela. Et en vous approchant de la table du Seigneur, vous avez cette prière pour qu'il y ait la réconciliation des saints. Et en même temps, vous savez que avant sa mort, et donc sa mort, qu'est-ce qu'il a eu? La souffrance. Alors je confesse, eh bien, si mon Seigneur a souffert, lui qui était le chef, mon maître, est-ce que moi qui suis membre de son corps, je puis éviter la souffrance? Non, c'est tout à fait normal. Qu'on soit injuste avec moi, qu'on me critique, c'est dans le programme, et je pense au Seigneur sur la croix, qu'il le délivre maintenant, s'il tient à lui. Donc, vous avez communion à quoi? À ses souffrances. C'est la communion à ses souffrances, que dimanche après dimanche, je me remets en présentation. C'est normal, dans cette semaine, j'aurai à souffrir, mais j'ai communié avec le Seigneur, et je comprends que, c'est dans le programme, les souffrances, alors je ne suis pas découragé. C'est ça, ça vous dit quelque chose, voyez-vous, c'est puissant, c'est, on n'a pas besoin d'une prédication, vous me direz, alors pourquoi sous la tête maintenant? Parce qu'on me l'a demandé, mais au fond, la prédication, elle est dans le repas du Seigneur, parce que ça me parle et ça doit vous parler. Vous pensez à ces souffrances et vous vous dites, eh bien, puisque j'ai communion, mais maintenant je vais avoir communion à ces souffrances. Mais par quelle force? Par quelle force? Par la puissance de sa résurrection. Il est ressuscité, mon sauveur. Je me souviens que maintenant il est debout à la droite de Dieu. Il se tient debout pour nous à la droite de Dieu, comme on lit dans l'Épître aux Hébreux. Et alors, moi je me tiens debout sur la terre pour lui. Lui se tient debout pour moi devant Dieu. Dieu me voit à travers les perfections de son Fils. Et je sais qu'il intercède pour moi, de sorte que pour pouvoir tout souffrir, pour entrer dans la communion de ses souffrances, j'aurai la puissance de sa résurrection. Le connaître lui est la puissance de sa résurrection pour entrer dans la communion de ses souffrances. Voyez-vous, on a besoin de puissance, non pas de puissance pour faire des miracles d'abord, mais de puissance pour souffrir comme chrétien, parce qu'un chrétien à l'heure actuelle, il faut qu'il le sache, il aura à souffrir. Vous aurez à souffrir. J'ai été très heureux dans un entretien hier soir avec un jeune homme qui a compris qu'il n'avait pas à se défendre lui-même.
et qui est travaillé par cette question parce que d'autres ont protesté contre le gouvernement, puis maintenant lui, il a compris qu'il devait se laisser faire par le Seigneur. Bien, ça encourage de voir que la parole a une action sur les cœurs. Il n'est pas venu seulement pour écouter, mais il veut mettre en pratique et il a des décisions à prendre, peut-être à revenir sur ce qu'il avait fait pour s'en remettre entièrement au Seigneur et ne pas insister lui-même sur ses droits. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et littéralement, la douceur, c'est le caractère d'un homme qui n'insiste pas sur ses droits. Il s'en remet au Seigneur. Bien sûr qu'on aurait des droits. Bien sûr qu'il y a des injustices dans ce monde. Bien sûr que le gouvernement est le premier fautif, bien souvent. Mais nous nous soumettons et puis nous nous disons, mais Seigneur, tu es au-dessus des rois et tu veux me garder si je suis ta pensée. Voilà, évidemment, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler bien longtemps, mais je rappelle que comme Christ est mort, je suis mort, hein. Je suis mort. Alors, si vous essayez de me piquer dans la semaine, j'espère que vous trouverez un mort. Parce qu'un mort, il ne réagit pas. Mais si je ne suis pas mort, je réagis. Mais le Seigneur a dit que si on nous frappe sur la joue droite, on peut tendre la gauche aussi. Mais pour cela, il faut vivre ce que le Seigneur a vécu. Et puis, j'entre dans cette communion de ses souffrances. Mais qu'est-ce que j'attends? Le Seigneur. Chaque fois que nous buvons à la coupe et que nous mangeons le pain, nous rappelons que le Seigneur vient. C'est vraiment Maranatha. La prière de la scène, c'est Maranatha. Le Seigneur vient. Et vraiment, le Seigneur vient à la table du Seigneur. Le Seigneur vient. La prière de la scène, c'est Maranatha. Le Seigneur vient. C'est toi, Seigneur, qui es là. J'ai affaire avec mon Seigneur. Mais si j'ai affaire avec mon Seigneur, j'ai affaire aussi avec tous ceux avec lesquels le Seigneur a affaire. De sorte qu'il y a une communion verticale, mais aussi une communion horizontale à la table du Seigneur. Nous avons communion avec le Seigneur, mais nous avons communion aussi les uns avec les autres. C'est pourquoi nous nous donnons le baiser de paix, pour bien montrer que nous n'avons rien entre nous. Voilà, et maintenant quelques mots sur il persévérait dans les prières, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, qu'est-ce que c'est que prier? Prier, c'est s'adresser à la divinité pour l'honorer d'abord, pour l'implorer. Prier, c'est demander avec insistance et humilité le secours du Seigneur, comme on l'a vu ce matin dans les prières de l'Église pour l'apôtre Pierre. Prier, c'est invoquer le nom du Seigneur, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Prier, donc, c'est implorer, c'est supplier aussi, c'est intercéder. Et voyez-vous, les Juifs étaient des gens qui priaient, même qui faisaient de longues prières. Mais Jésus, lui, a appris à ses disciples à prier. Et c'est très frappant. J'aime beaucoup ce chapitre 11 de Luc, parce qu'il est dit qu'un jour, ses disciples qu'il avait appelés autour de lui, et qui savaient prier, parce que les Juifs savaient prier, ils faisaient même de longues prières. Il est dit qu'un jour, Jésus priait en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Vous rendez-vous compte? Tout à coup, en ayant entendu Jésus prier, il se dit, « Moi, je ne prie pas comme je dois. Moi, je ne sais pas prier. » C'est ça, quand on voit le Seigneur, quand on a la vision du Seigneur, on apprend tout de lui. « Apprenez de moi. Viens, apprenez de moi. Moi, je croyais que je savais prier. Voilà, je me rends compte que je ne sais pas prier parce que j'ai vu le Seigneur prier. » Et c'est alors que le Seigneur a enseigné, je l'apprends alors dans le chapitre 6, de Matthieu, dans le sermon sur la montagne, la merveilleuse prière qu'on appelle le pater ou la prière dominicale, que vous connaissez certainement par cœur, même si dans nos milieux évangéliques on ne la récite pas parce qu'il y a abus
dans d'autres milieux où on récite cette prière plusieurs fois, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain. Puis vous savez, hein, c'est le moulin à prière là. Hein. Alors, c'est pas ça, mais cette prière, c'est un modèle de prière. Jésus justement dit, quand vous priez, puisqu'on lui a demandé, apprends-nous à prier, n'usez pas de vaines redites, et malheureusement, on a fait, c'est toujours ça qu'on fait les hommes, quand Dieu nous donne quelque chose de bon, on le gâte. Hein. On a fait de la prière dominicale une redite, alors que Jésus avait dit, n'usez pas de vaines redites. Mais la prière dominicale, quand elle n'est pas une redite, vous savez, elle a une puissance. Il y a des moments où on peut la faire. Et en montrant justement qu'on ne la récite pas comme une vaine redite. Je sais très bien qu'il y en a qui disent qu'on n'a pas à la faire parce que ça, seulement quand le royaume de Dieu sera venu, c'est les Juifs qui prieront ainsi. Eh bien, on a dit, mais des âneries, on a dit, comment est-ce qu'on peut faire la prière dominicale, donne-nous notre pain quotidien quand on a son frigidaire rempli. Alors, vous voyez, votre frigidaire, il est rempli, alors vous n'avez plus besoin de dire, donne-nous notre pain quotidien. Puis le jour où il y a la grève des boulangers, alors, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Tout d'un coup, vous vous souvenez qu'à cette prière, parce que vous n'avez plus de pain. Mais au moins, rendez grâce. Et dites-vous que si vous avez votre pain, hein, c'est parce que le Seigneur vous l'a donné. Mais vous dites, non, c'est mon travail. Oui, mais si tu as pu travailler, c'est parce que tu n'étais pas malade. Il y a bien des gens qui sont malades et qui ne peuvent pas travailler, qui voudraient travailler. De sorte que, voyez-vous, tout ce que nous avons, tout ce dont nous attribuons les choses, c'est tout donné de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Nous devrions être des âmes de reconnaissance. Vous respirez. Il y en a qui ne respirent plus. Vous remerciez Dieu de respirer. Vous avez encore des yeux, vous avez remercié pour vos yeux ce matin, parce que, voilà, pendant le sommeil, on peut avoir une attaque, on peut être paralysé, vous avez encore vos membres, hein. Puis on peut être très jeune et avoir tout ça. Mais non, mais c'est le matin, on se lève là, mais j'ai encore mes jambes, ça marche, hein. Même si j'ai un peu de rhumatisme, ben, tout le monde a ses petits bobos, mais je veux rendre grâce au Seigneur que je puisse encore m'occuper, que j'ai encore mes mains, et que j'ai encore mon cerveau, la grâce de Dieu. Tout est grâce. Remerciez Dieu. Alors, notre Père, il nous montre comment on a à nous adresser à un Père. Dans le ciel, nous avons un Père. Et un Père qui ne peut pas mourir. Un Père qui est éternel. Et vous pouvez méditer sur tout ce qu'est le Père. Père saint, Père juste, Père de miséricorde, Père de lumière. Et tout ce qui est dit de ce Père. Je m'adresse à ce Père, donc je sais à qui je m'adresse. Notre Père, c'est quelque chose de merveilleux. Quand vous priez, dites notre Père. Prenez conscience que vous vous adressez à ce Père. Jésus disait, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Voilà, il était en communion avec le Père, notre Père. Qui est aux cieux, on ne peut pas l'atteindre. Il est inattaquable, on peut aller dans l'espace. Mais ils n'ont jamais pu se libérer de la non-pesanteur. Ils ne sont jamais allés plus haut. Ils se sont libérés de l'attraction de la terre, mais ils n'ont jamais connu l'attraction du troisième ciel. Parce que pour être libérés justement de cette apesanteur, pour aller plus haut, eh bien, ils n'ont pas réussi encore. Parce que pour ça, il faut d'autres corps. C'est tout ce que les Américains inventent. Et ceux qui seront délivrés de l'apesanteur, parce que nous la traversons, l'apesanteur, alors vous allez rester là, quand le Seigneur reviendra, vous flotterez dans l'apesanteur, tous les croyants dans l'apesanteur, vous rendez compte, avec les cendres des autres. Non. On va aller plus loin, n'est-ce pas, parce qu'il y a... Il y a des cimetières sous-marins, il y a des cimetières terrestres, et maintenant il y a le cimetière céleste, là. Bientôt il y aura le cimetière céleste. On traverse tous les cimetières, hein. Les morts en Christ sortent de la terre. Nous, les vivants qui demeurons, nous sommes transformés. La mer rend aussi ses morts, et puis voilà que nous allons à la rencontre du Seigneur, et il nous fait connaître le chemin de la maison du Père. Il nous a préparé une table et nous en entrons. Gagarine, il a pas trouvé Dieu qui vit là-haut, mais il n'a pas été plus haut. Mais d'abord, on dit que c'est pas là-haut, hein, qu'on s'éloigne seulement, on s'éloigne. Mais là, il y a une attraction céleste. C'est pour qu'on ait cette attraction céleste, il faut vraiment être né de nouveau. Et alors, à ce moment-là où le Seigneur revient, nos corps sont transformés et ils s'arrachent aussi, non seulement à l'attraction terrestre, mais à la pesanteur. Et nous allons plus haut dans la maison du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Les premiers besoins, c'est ce que nous devrions demander à Dieu, c'est que son nom soit sanctifié. Nous n'allons pas employer ce nom pour n'importe quoi. C'est un nom qui nous sépare vraiment des choses du monde. Nous sommes du Père, nous ne sommes pas du monde. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et qu'est-ce que c'est l'amour du Père? C'est Jésus. L'amour du Père, c'est ça, c'est Jésus. L'amour du Père, c'est Jésus en nous. Alors, si Jésus est en nous, eh bien, le monde perd ses attraits. Parce que Jésus, il m'a parlé des choses célestes. Ma patrie est dans les cieux. C'est là qu'il y a la justice. C'est là qu'il y a l'amour. C'est là qu'il y a la douceur. C'est là qu'il y a la lumière. Notre Père, c'est aussi que ton nom soit sanctifié. Puis alors, évidemment, quand on est dans le monde et qu'on voit le monde, que ton règne vienne. On ne peut pas ne pas soupirer après ce moment où quelqu'un de juste viendra sur la terre. Car jusqu'à maintenant, ce qui a conduit les nations du monde, ce sont des animaux. Relisez Daniel. Hein. Des animaux plus féroces les uns que les autres. Ce sont des bêtes qui ont dominé le monde. Ceux qui ont dominé le monde sont comparés à des bêtes. Je ne vais pas vous parler de Babylone, des Mèdes et des Perses, des Grecs et des Romains, ces bêtes plus épouvantables que tous les autres. Mais tout à coup, Daniel voit quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Le règne humain sur la terre n'a pas encore été connu. Enfin viendra le fils de l'homme et il établira un règne vraiment humain sur la terre et toutes les difficultés de ce monde seront résolues parce qu'il y aura l'équité, il y aura vraiment l'égalité, la fraternité et il y aura vraiment cette égalité après laquelle, bien sûr, on soupire. Il n'y aura plus de nations qui seront dans le besoin parce qu'il y aura une répartition dans le monde de tous les produits du monde. Toute la terre est à l'éternel étant. Les blés brûleront jusqu'au sommet des montagnes, il y aura du pain pour tout le monde. Parce qu'il y aura, on aura cultivé. Mais cultivé d'une façon rationnelle, sous la direction du grand agriculteur. Car le Seigneur a tous les métiers, c'est lui qui les a fait. Hein. Et il s'y connaît dans l'agronomie, en toutes choses. Alors quand il aura des ministres, et vous voulez être ces ministres, ben soyez fidèles dans les petites choses. Car le Seigneur gouvernera le monde avec ceux qui ont cru et qui auront été fidèles dans les petites choses. C'est pour ça dire, mais moi je suis converti, je suis sauvé, ça suffit. Non, depuis que tu es sauvé, tu es à l'école du Seigneur. Et cette école du Seigneur est l'école de formation, pourquoi? Pour pouvoir faire un peu d'évangélisation sur la terre. Non, c'est une école de formation pour le règne. Parce que Dieu administrera son règne avec ses élus. Mais c'est là qu'il y aura les récompenses. Ceux qui auront manifesté leur fidélité dans les petites choses, il pourra les établir sur beaucoup. C'est pourquoi votre vie, quelle qu'elle soit, c'est un capital que vous avez et que vous devez y songer pour que, quand le Seigneur viendra, il puisse vous dire « Viens, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle sur ce qui était très petit, viens, je t'établis sur 10 villes ». Sur Saint-Ville, parce que, avec les dons qu'il vous a donnés, vous avez cherché à être fidèle dans votre administration. Mais c'est si vous êtes fidèle dans les petites choses. Alors, vous voyez, dans cette prière, on a toute une instruction, que ton règne vienne. Et puis, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait dans le ciel. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait la volonté de Dieu dans le ciel? C'est les anges, et vous avez vu comme ils sont polis. Quand ils vous réveillent,
Puis quand ils vous disent de prendre votre manteau et tout ça, hein, ils s'occupent de nous, les anges. Alors, les anges font la volonté du Père. Eh bien, nous devons la faire comme les anges la font dans le ciel. Nous devons donc être déjà un peu du céleste. Nous devons être imprégnés du céleste pour vivre d'une façon céleste sur la terre. Mais alors, on sera des étrangers, évidemment. Et ensuite, après qu'on ait demandé ces choses, que le Seigneur puisse faire sa volonté avec nous, alors viennent les besoins matériels. Quelqu'un a demandé, mais est-ce qu'on a le droit de demander des choses matérielles? Mais oui. Dans le pain quotidien, tout est compris, tous les besoins matériels. Mais il y a d'abord les besoins spirituels, parce qu'on a d'abord l'esprit. Puis ensuite, les besoins matériels. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dans le pain de ce jour, c'est tout ce dont vous avez besoin. Le vêtement aussi. Pas seulement la nourriture, mais tout ce qui est nécessaire à votre corps. Et puis, aussi les besoins de l'âme. Pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donne-nous vraiment cet esprit de pardon. On pourrait méditer longuement là-dessus. Et puis, ne nous induis pas dans la tentation. C'est spécialement la grande tentation eschatologique de la fin des temps. Je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Ô Seigneur, garde-nous de cette heure de la tentation. C'est garde-nous de la tentation quotidienne, mais aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur la terre habitée tout entière pour mettre les hommes à l'épreuve. Et notre espoir, c'est d'être gardé de cette heure de l'épreuve, c'est d'être enlevé avant l'heure de l'épreuve pour aller auprès du Christ dans la maison du Père. Et ça devrait être notre bienheureuse espérance. Et délivre-nous du mal. Qui c'est l'auteur du mal? Jésus l'a montré, c'est Satan. Cet être, cet ange déchu, et qui a dit non à Dieu le premier et qui s'est opposé. Alors, voilà, si vous voulez savoir quelle sorte de prière, mais vous lirez le Nouveau Testament, vous verrez que Jésus nous montre qu'il faut toujours prier sans nous lasser. Et vous me direz, mais puisque le Seigneur connaît déjà nos besoins, pourquoi les lui dire? Vous avez vu quand l'aveugle-né est venu, il lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Il aime vous entendre parler et lui exposer vos besoins. C'est la manifestation que vous êtes dépendant de lui. Parce que quelqu'un qui dit, moi, j'ai pas besoin de prier, Dieu sait déjà ce dont j'ai besoin. Mais le Seigneur désire vous manifester que vous avez besoin de lui. La prière, c'est une expression de ma dépendance. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Alors, le Seigneur nous montre qu'il faut toujours prier sans nous lasser. Et alors, on pourrait parler de la prière dans son cabinet, on ferme sa porte sur soi. Là, vous pouvez prier des heures, si vous voulez. Hein. Mais quand vous êtes alors dans la prière de l'Assemblée, eh bien, modérez-vous, dites vraiment à Dieu ce dont vous avez besoin ou ce que l'Assemblée a besoin. Pensez que d'autres vont joindre leur prière aux vôtres, mais ne faites pas, je vous en supplie, de longues prières dans une Assemblée. Il racontait, parce que j'ai pas mal d'expérience là-dedans, il y en a un jeune dans un camp, il priait tellement longuement que les gamins, ils étaient là, et puis ils calculaient le temps qu'ils mettaient, puis il y en a un, il était arrivé à 20 minutes. Alors il y a un gosse qui a dit « record battu hein, », parce que c'était celui qui avait prié le plus longtemps. Et alors l'amen, eh bien oui, l'amen. Alors on dit « amen », mais c'est pas « amen, oui Seigneur ». Enfin, il a fini. Enfin, il a fini. Et puis, faites toujours attention, n'est-ce pas? Moi, je m'en vais souvent en avion, et il est arrivé que l'avion ne pouvait pas sortir son train d'atterrissage. Alors, on croyait qu'on allait atterrir, il descendait, on avait attaché nos ceintures, puis tout à coup, vroom, voilà qu'il repartait. Et puis, il faisait encore un tour de piste, il n'arrivait pas à sortir son train d'atterrissage. Vroom, et puis, eh ben, on commençait à penser qu'on allait devoir atterrir sur le ventre quand il n'aurait plus d'essence. Eh bien, j'ai souvent pensé que des fois, dans les réunions de prière, voilà, un frère, on se dit, ben, il va dire amen, hein. On dirait qu'il a sorti son train d'atterrissage. Il va se poser, puis, vroom, il repart, hein. Et voilà, il fait son tour de piste, après, vroom, et puis il repart. Hein. Et puis pour finir, il atterrit sur le ventre, hein. Alors, il y a un amen retentissant.
Nous sommes des drôles, hein.
Et je vous promets que le Seigneur a de la patience avec nous.
Alors, souvenez-vous de cela, hein. Demandons au Seigneur que nos paroles soient peu nombreuses, mais qu'elles soient senties et qu'elles soient vraies, et que quand nous avons à exposer nos besoins, bien, comme il l'est dit dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, et alors, eh bien oui, il faut persévérer. Qu'est-ce qu'il y aura? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs qui s'agitaient, vos pensées qui se troublaient seront gardées en Jésus-Christ. Mais il y a une persévérance dans la prière. Dans l'Épître à Timothée au chapitre 2, il est dit que nous devons prier pour les rois, pour tous les hommes, ça veut dire aussi les femmes, bien sûr, mais que nous devons prier pour ceux qui sont placés, pour nos magistrats. Nous avons toute espèce de prière, la prière d'intercession, la prière où on est seul dans la chambre, la prière où on se met deux ensemble, deux sont-ils d'accord, ou comme la prière de Daniel, il va trouver ses trois amis, et ils prient ensemble, et le secret est révélé à Daniel, donc la prière communautaire dans l'église. Alors relisez les chapitres 14, le chapitre 14 en particulier, de l'épître de Paul au Corinthiens, et puis dans les Thessaloniciens, c'est le dernier mot, prier sans cesse. Parce qu'il faut que je sorte aussi mon train d'atterrissage. Hein. Prier sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire? Verset 17 du chapitre 5 de la première aux Thessaloniciens. Prier sans cesse, c'est... Non. Prier sans cesse, c'est avoir une vie ouverte à Dieu. À tout instant, ben, il y a la communication avec le Seigneur. Alors, prier sans cesse, c'est dans sa voiture, c'est devant un feu rouge, au lieu de s'énerver. On a un petit moment de prière. C'est ça, mais alors, regardez quand même le feu vert, pour ne pas embêter celui qui est derrière vous. Et alors, vous passez. Mais on a toute espèce de moments de prière. Prier sans cesse. Et voyez-vous, plus vous avancerez dans la vie du Seigneur, plus vous prierez pour toutes choses. Même si vous allez chez le coiffeur, même si vous achetez une robe, Seigneur, est-ce que ça te plaît, ça? Pas seulement est-ce que ça va plaire à mon mari, mais est-ce que je suis convenable avec ça? Dans le vêtement, dans la nourriture, si je sais que tel mets peut me déranger, j'ai mieux m'en abstenir. Alors on prie, on rend grâce pour toutes choses. Prier sans cesse, c'est avoir une vie ouverte à Dieu. Alors, un moment, c'est une action de grâce. Je te loue, ô Père. C'est très court, les louanges du Seigneur. Ou bien alors, un cri. Seigneur, aide-moi. Et il s'y connaît en toutes choses. Et le Seigneur nous aide. Et pour les plus jeunes aussi. Eh bien, vous allez vous-même continuer. On a fait qu'effleurer tout cela. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Il y aurait d'autres persévérances. Il persévérait dans la grâce de Dieu, il persévérait dans la foi et il persévérait dans les bonnes œuvres. Parce que la manifestation visible de votre foi, ce sera les bonnes œuvres. Eh bien, que le Seigneur bénisse cette parole que nous avons considérer ensemble la vie dans l'Église. Il y a encore d'autres manifestations de vie dans l'Église. Mais si vous avez ces quatre piliers, bien dans ces quatre piliers rentreront toutes les autres manifestations de vie. Et souvenez-vous que la vie dans l'Église, c'est pas du bruit. Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. C'est dans le silence, surtout, que le Seigneur peut se manifester et se révéler. Et alors, quand on a été dans le silence, eh bien oui, il peut se faire un bruit, mais un bruit qui vient du ciel. Hein. C'est ça qu'il y a eu à la Pentecôte. Ils étaient assis dans le lieu où ils étaient réunis. Et il se fit tout à coup un bruit, un vent violent, impétueux, mais ça venait d'en haut. Ça venait du ciel. Mais nous, on a tellement l'habitude d'entendre les bruits de la terre qu'on n'entend plus le bruit qui vient ciel. Et il est dit, un son qui venait du ciel et qui remplit toute la maison dans laquelle ils étaient assis. Et alors, il y aura la louange, l'adoration, l'action des grâces, et qui sait, peut-être aussi une langue, mais alors avec son interprétation. Amen.